إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحديث السادس عشر Donc là, on arrive au hadith numéro 16. أثر العلم والهدى الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في أصناف الناس. L'effet de la science et de la guidée avec lesquels est venu, a été envoyé le messager Muhammad صلى الله عليه وسلم et les différentes catégories de gens face à cet effet. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به رواه البخاري ومسلم وأحمد. Donc d'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple, la parabole, mon message avec lequel j'étais envoyé est semblable à, c'est ce qu'on appelle des paraboles ou des exemples qui nous sont donnés. Donc là le prophète alayhi salatu wa sallam nous donne l'exemple, ce qui ressemble au message avec lequel il a été envoyé, alayhi salatu wassalam. Donc, l'exemple de ce avec quoi Allah m'a envoyé comme guidé et science, savoir, c'est l'exemple de la pluie. Elle est à l'exemple de la pluie. Al-Ghayth, c'est la pluie. On dit Al-Matar et on dit aussi Al-Ghayth. Une grande pluie abondante qui a frappé, touché une terre. Une terre qui est pure, propre, qui accepte l'eau, absorbe l'eau. Donc, elle absorbe l'eau, elle profite de cette eau. Et il en découle qu'il y aura de la récolte. Cette terre, elle va pousser et il y aura de la récolte, beaucoup de récolte. Donc c'est une terre qui est fertile. Et il y a une autre terre aussi qui est touchée par cette pluie, qui elle retient l'eau, elle garde l'eau. Et cette eau, elle sera bénéfique pour les gens. Ils pourront en boire, ils pourront arroser leur terre, d'accord, et aussi donner à boire à leur bétail, et ils pourront avec cette eau cultiver la terre. Donc l'une, elle profite de l'eau, d'accord, et elle sort ce qui est bénéfique pour les gens comme récolte. L'autre, elle garde l'eau, hein, elle ne l'absorbe pas, elle garde l'eau, l'autre, elle reste à sa surface pour faire profiter les gens de cette eau. Et d'autres gens sont touchés par cette pluie, mais c'est sur une terre, non seulement elle ne l'absorbe pas, elle ne profite pas de cette eau et elle ne la garde pas. Donc personne ne profite de cette eau. Donc ni elle ne la garde, la préserve, et ni de cette eau il y a quoi que ce soit qui pousse. Voilà l'exemple de celui qui a connu, appris, compris la religion d'Allah et qui a profité, bénéficié de ce avec quoi Allah m'a envoyé comme savoir, comme guidé. Alors il a su, il apprend, il sait et il enseigne. Et l'exemple de celui qui ne lève même pas sa tête face à cela, c'est-à-dire qui ne tient même pas compte de ce qu'il y a comme message, comme savoir et comme guider, et qui n'accepte pas, ne répond pas favorablement à cette guidée avec laquelle il a été envoyé, le prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par al-Bukhari, Muslim et Ahmed. Rawi al-Hadith, le rapporteur du hadith, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais ibn Salim ibn Hadar, sahabi mashhur. Donc Abu Musa al-Ash'ari, il s'appelle Abdullah ibn Qais ibn Salim ibn Hadar, c'est un compagnon célèbre et connu. Hajara ila Mecca, il a émigré jusqu'à la Mecque. ثم إلى الحبشة puis en Abyssinie. ثم إلى المدينة puis à Médine. واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناحية من اليمن. Et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم lui a donné des missions, l'a envoyé au Yémen pour des missions bien précises. كان شجاعا عالما عاملا. Il était connu pour sa bravoure, son courage et son savoir et sa pratique. Wallahu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ala al-Kufa wal-Basra. Donc pendant, durant le califat de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar l'a mis comme gouverneur de al-Kufa, la ville de al-Kufa qui est en Irak, et la ville aussi de Bassora qui est aussi en Irak. فتح الأهواز وأصبهان وعدة أمصار. Il a conquis, il est à la tête de l'armée. Quand on dit qu'on cite le nom d'un homme et on dit fataha, c'est-à-dire conquérir, c'est-à-dire qu'il était à la tête, on sait qu'il n'est pas parti tout seul, hein, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire qu'il est, c'était lui qui était à la tête de l'armée qui a conquis. C'est-à-dire qu'il était à la tête de l'armée qui a conquis. الأهواز, c'est la région sud de l'Iran. Hein, c'est la région qui est connue pour être habitée par des populations d'origine arabe, d'accord, qui sont persécutées par les Iraniens chiites, parce que c'est une région où, en général, ce sont des gens connus pour être des sunnites. Et que depuis que le chiisme a pris le pouvoir dans cette région, hein, ils persécutent cette population, la population de Al-Ahwaz. Et de Asbahan. Asbahan, c'est Isfahan, une des grandes villes d'Iran, une des grandes villes d'Iran très connue et connue depuis très longtemps. Elle est citée même dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit le prophète là-dessus? Pourquoi il cite cette ville? Parce que ça, parce que 70 000 juifs disparants seront dans les rangs de l'antéchrist. Dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Yatba'u d-dajjal 70 alfan min yahoudi isbaran » 70 000 juifs disparants seront avec l'antéchrist, le faux messie. Taïb. Mata sanata 50 radiyallahu an. Il est mort en l'an 50 de l'égir radiyallahu an. Donc Abu Moussa al-Ash'ari, il est d'origine yéménite. C'est un compagnon qui est d'origine yéménite et qui est venu du Yémen pour être avec le prophète alayhi salatu wa salam. Et c'est un des ancêtres, et c'est l'ancêtre de Abu al-Imam Abu al-Hassan al-Ash'ari. Celui dont les Ash'ari s'affilient à lui, la secte des Ash'ari, parce qu'il se dit s'affilier à l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, radiallahu anhu. Al-Ash'ari, ça vient de ce sahabi, ce mot, d'accord ? Parce que c'est un descendant de Abu Moussa al-Ash'ari. Mais Abu al-Hassan al-Ash'ari est innocent des égarements et des déviances qu'on retrouve dans la aqidah qu'on appelle l'aqidah al-Ash'ariya, qui ne porte pas le vrai nom. En vérité, c'est l'aqidah al-Kullabiya. En vrai, c'est l'aqidah d'Ibn Kullab. Car l'imam al-Ash'ari, rahimahullah ta'ala, qui vécut au 4e siècle, dans les années 300 et quelques de l'Égir, rahimahullah, il est passé par plusieurs phases. Il a grandi avec sa mère et son beau-père qui étaient Mu'tazili. Et donc il est grandi avec la aqidah de Mu'tazila. Et jusqu'à en être un imam et un leader dans la aqidah des Mu'tazila. Puis il s'en est repenti. Et il a quitté cette croyance qui est déviance. Et il s'est rapproché de la sunna, mais il y avait encore des questions de croyance à régler. Et ça, cette croyance médiane, c'est ce que les gens appellent l'aqidah al-ash'ariya. Et c'est ce que certains suivent ou prétendent suivre. Puis, à la fin de sa vie, rahimahullah, il s'est repenti de cela et il a écrit des ouvrages dans lesquels il montre la croyance sur laquelle il est. C'est l'aqidah ahli sunnah wal jama'a, l'aqidah des salaf, rahimahumullah wa radiyallahu anhum. Donc, là, on parlait du compagnon, puisqu'on parlait du compagnon Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu. Al-mufradat, le vocabulaire. Al-mathal, al-muradu bihi huna as-sifatu al-ajiba lal-qawl as-sa'ir. C'est l'aspect étrange de ce message avec lequel est envoyé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est semblable à cette pluie. الهدى الدلالة الموصلة إلى المطلوب. D'accord, c'est le signe ou le signal qui t'amène à ce que tu recherches ou ce que tu demandes. C'est cette guidée. Elle t'emmène vers Allah Azza wa Jal. C'est la direction qui t'emmène vers ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. الغيث الكثير المطر العام. C'est une pluie générale. Et en parlant de la pluie, est-ce que vous savez que dans un hadith, il est bien précisé que tous les ans, la même pluie, elle tombe sur terre. Toutes les années, chaque année, il y a la même quantité d'eau qui tombe sur terre. Subhanallah. La même quantité. D'accord ? Seulement, Allah Azza wa Jal, il peut déplacer cette pluie vers d'autres endroits. Et il peut la laisser abondante dans un endroit précis. Et lorsque des gens ne méritent pas la pluie à cause des péchés, des déviances et ainsi de suite, eh bien Allah, l'année d'après, la pluie elle ira autre part. Eux ils ne l'auront pas. Mais la quantité qui tombe du ciel, c'est tous les ans la même. La même quantité. Donc les gens peuvent dire, ça fait des années qu'on n'a pas eu la pluie, ou ces derniers temps, il pleut beaucoup, d'accord ? Mais la généralité de la pluie sur terre, c'est la même. C'est la même. نقية طيبة كما في الرواية الأخرى. Donc une terre pure, c'est-à-dire c'est une terre qui est bonne, qui est fertile, qui accepte l'eau et qui sort de ses bienfaits. العشب النبت الرطب, c'est le ce qui pousse et qui est humide. الجادب جمع جد بفتح الدال المهملة, donc جدب. وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء, c'est la terre qui est droite et qui ne garde pas l'eau. قيعان جمع قاع وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. توضيح هذا المثل, donc clarification, explication de cet exemple. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه, وكذا كان حال الناس قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم donne l'exemple du message avec lequel il a été envoyé à la pluie générale qui vient et qui tombe lorsque les gens l'attendent, lorsque les gens en ont besoin. De même en était la situation des gens avec la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils attendaient sa venue, ils en avaient besoin. فَكَمَا أَنَّ الْغَيْثِ يُحْيِي بِهِ اللَّهُ الْبَلَدِ الْمَيِّتِ فَكَذَا الْوَحِي مِنَ اللَّهِ يُحْيِي بِهِ الْقُلُوبِ الْمَيِّتَةِ. De même que avec la pluie, Allah redonne vie à la terre qui était morte. Allah tabaraka wa ta'ala, avec la révélation, il redonne vie à des cœurs qui étaient morts. قال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Donc l'exemple de celui qui était mort, puis nous lui avons redonné vie et nous lui avons donné, mis à disposition une lumière avec laquelle il marche au sein des gens. Est-ce que lui, il est semblable à celui qui est perdu dans les ténèbres, qui ne peut en sortir? فَالنُّورُ هُنَا نُورُ الْوَحِي. La lumière citée dans le Coran, avec laquelle il marche, celui à qui Allah lui a donné la vie, la véritable vie, c'est la lumière de la révélation. وَالظُّلُمَاتِ. Et les ténèbres, l'autre qui est dans les ténèbres et ne peut quitter ces ténèbres, ظُلُمَاتُ الْجَهْلِ وَالْكُفْرِ وَالضَّلَالِ. Ce sont les ténèbres de l'ignorance, de la mécréance et de l'égarement. ثُمَّ شبه النبي صلى الله عليه وسلم السامعين لما جاء به بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث. Puis donc le prophète sallam donne l'exemple de son message, de la révélation qu'il reçoit, comme celle de la pluie qui tombe, et l'exemple de ceux qui écoutent ce message, c'est l'exemple de la terre qui reçoit cette pluie. C'est l'exemple de la terre qui reçoit cette pluie. أولاً, premièrement, فمنهم, parmi eux, parmi les gens. العالم والعامل المعلم. Il y a le savant qui pratique, qui applique son savoir et qui l'enseigne. فهو بمنزلة الأرض الطيبة. Lui, il est semblable à la bonne terre, la terre fertile. شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. Donc, elle a bu la terre de cette eau, elle l'a absorbée, elle en a profité en elle-même et elle en a fait profiter les autres en faisant pousser les récoltes de cette terre. ثانياً, deuxièmement, ومنهم, et parmi ces gens, il y a الجامع للعلم المجتهد في تحصيله لكنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع غير أنه أداه لغيره. Deuxième catégorie de gens, c'est celui qui amasse le savoir, les textes, la révélation, et il s'efforce là-dedans, mais il ne pratique pas beaucoup. Il n'applique pas beaucoup ce qu'il y a comme enseignement, comme il est recommandé de faire des actes, il n'en profite pas. Ou alors, il ne comprend pas. Il ne sait pas ce qui est voulu réellement et véritablement par ces textes. Il les a, mais il en est incapable de les expliquer ou de les comprendre convenablement. Donc, il transporte ce savoir, mais il ne peut pas en profiter. Donc, c'est soit il n'en profite pas, il n'applique pas tout ce qui est recommandé et qui est demandé dans ces textes, ou alors il a les textes avec lui, mais il n'en a pas la bonne compréhension, la bonne signification, ce qui est voulu et attendu par ces textes. فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء. Celui-là, il est semblable à une terre qui garde l'eau à sa surface. L'eau, elle reste. Elle ne l'absorbe pas, elle reste sur la surface de cette terre. فينتفع الناس به. Et les gens peuvent profiter de cette eau. وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. Et c'est celui-là qui est voulu par le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qu'Allah fasse resplendir le visage d'une personne qui entend ma parole, qui la retient et la retransmet comme il l'a entendu. Comme il l'a entendu. Donc, il y a des gens, ils entendent le message, ils sont capables de bien le mémoriser et de bien le transmettre comme il a été prononcé. Mais, ils n'en ont pas la connaissance. Et c'est pour cela que dans ce hadith-là, on en a plusieurs dans ce hadith-là, نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ وليس بفقيه. Il se peut que quelqu'un فرب مبلغ وليس بفقيه. Il se peut que quelqu'un transmette sans en avoir la connaissance. Il ne connaît pas. Et il se peut qu'il le transmette à plus connaisseur que lui. À plus connaisseur que lui. Donc, à qui il va transmettre, lui va pouvoir lui dire qu'est-ce que veut dire ce texte-là et qu'est-ce qu'il est voulu par ce texte-là. Donc, il va faire profiter les autres, bien que lui, à ce moment-là, il ne profite pas personnellement de ce texte. Thalithan, troisièmement, wa minhum, et il y a parmi eux, parmi les gens, من يسمع العلم. Donc il écoute, il entend, ça lui parvient le savoir. فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره. Alors celui-là, ni ne le mémorise, ni ne l'apprend, ni l'applique, ni le transmet à autrui. Il n'en profite pas et il ne fait pas profiter les autres. فهو بمنزلة الأرض السبخة الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. Donc lui, il est semblable à une terre aride qui n'accepte pas l'eau, d'accord, elle est plate, l'eau ne reste pas, elle ne l'accepte pas, et il se peut même qu'elle pollue cette eau pour les autres, qu'elle pollue les eaux, l'eau pour les autres qui ne pourront jamais en profiter. وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين l'ishtirakihima fi l'intifa'i bihima. Et dans cet exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les deux premières catégories, d'accord, à qui il fait les éloges parce que ils ont en commun le fait que les gens en profitent. Les gens, ils en profitent du premier et du deuxième. Wa afrada at-ta'ifa ath-thalitha al-madhmuma li'adam an-naf'i biha. Et il a laissé seule la troisième catégorie, hein, à qui il a fait le reproche et la réprimande et la critique. Pourquoi ? Parce que personne n'en profite. Fa'alayka akhi. Donc là, tu te dois, ô mon frère, bil'ilmi nabawi wal'amal bihi yarfa'uka Allahu bihi. Tu te dois d'aller à la quête du savoir prophétique et de le pratiquer. Allah tabaraka wa ta'ala t'élèvera avec. Al-ilm an-nabawi, le savoir prophétique, c'est-à-dire la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et a transmis le Coran. Et sa sunna, c'est l'explication et la pratique du Coran. Le Coran est toujours avec la sunna. Celui qui dit le Coran tout seul, il dément le Coran. Parce que le Coran te demande de revenir au prophète. Le Coran te demande d'obéir au prophète. Le Coran te demande de suivre le prophète. Donc celui qui dit le Coran nous suffit, il dément déjà les règles de l'islam. Mais déjà il dément le Coran. Il est contradictoire. Ce qu'il prétend est faux parce que le Coran t'ordonne de suivre le prophète, t'ordonne d'obéir au prophète, t'ordonne de revenir au prophète alayhi salatu wassalam. Donc, celui qui dit on suit seulement le Coran, c'est pas vrai. Puis il y en a, c'était la secte des Coranites. Hein, on les appelle Coraniyoun. Ce sont des gens, c'est des débiles mentaux. Il n'y a que de la débilité pour tomber dans ces choses-là. Et donc, ils ont dit, nous, on ne suit que le Coran. Le Coran, c'est le livre qui est sûr. Il n'y a aucun doute sur tout ce qui est dedans. Alors que la sunna, il y a du vrai, il y a du faux, il y a du faible. Donc, voilà. Donc, c'est très dur à savoir. Donc, il ramène des phrases pour pouvoir se débarrasser, mais au final, c'est pour se débarrasser de l'islam. Wal'iyadu billah. C'est comme les chiites qui s'attaquent aux compagnons. Les compagnons, si on les attaque, qu'est-ce qui nous reste de l'islam ? Dites-moi, qu'est-ce qui nous reste ? Le Coran, qui nous l'a transmis ? Ce sont les sahaba. Si les sahaba, ils ne sont pas musulmans, comme ils disent les rawafid, comment on fait ? La sunna, comment on fait ? On ne peut plus rien prendre d'eux, donc l'islam. Donc au lieu de s'attaquer aux prophètes, ils s'attaquent aux sahaba. Mais en réalité, c'est pour s'attaquer aux prophètes. Alayhi salatu wa salam. De même que ceux qui s'attaquent à un ou deux ou trois sahabis, c'est une porte pour s'attaquer à tous les sahabas. Donc, ne vous faites pas avoir par des personnes qui disent non, je n'ai pas voulu, j'ai voulu. Ça n'existe pas. Les sahabas, ce sont des hommes, des femmes qu'on respecte. Ce sont des hommes, des femmes qu'Allah a choisis pour qu'ils soient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un honneur qu'il leur a donné. Personne après eux n'a cet honneur. Le plus petit des compagnons est meilleur que le plus grand des imams des tabi'in. Parce que le grand imam des tabi'in, avec la place qu'il a, il n'a pas eu cet honneur d'être le compagnon du prophète. Et c'est pour cela que le prophète dit « Khayrun nas », les meilleurs des gens. Il dit, allez, ça toi, ça frère, on est assez carni. C'est ma génération. Ceux qui sont avec moi. Puis. Donc, il y a un ordre. Il n'a pas dit et. Il a dit thumma, puis. Après eux, ils viennent. Alladhina ilunahum. La génération d'après. Puis, la génération après celle-ci. Thumma alladhina ilunahum.
Alors ils viennent des fois, même dans les paroles, vous en entendez des fois parler, hein, des gens qui parlent au nom de l'islam, alors qu'il ferait mieux de laisser tranquille l'islam. Hein, parce que, Allah al-Musta'an, on donne des titres à des gens, je ne sais même pas qui les a inventés, le grand mufti de Marseille, le grand mufti, à Paris non, on n'entend pas ce mot-là, mais il y en a, on l'appelle le grand mufti de Marseille, qui lui a donné ce titre ? Le grand imam de Lyon, le grand imam de Bordeaux, l'imam de Drancy, des titres, non mais des titres, les musulmans eux-mêmes, je ne suis pas au courant qu'ils l'ont donné ce titre. Qui leur a donné ce titre? Je ne sais même pas si eux-mêmes ils se sont donné ce titre. Qui leur a donné? Allahu alam. Mais c'est ce qu'on entend comme titre. Grand connaisseur de. C'est, en vrai, grand connaisseur, grand ignorant de. C'est ça la réalité. Subhanallah. Et vous entendez quoi comme phrase? Et parfois beaucoup n'y prêtent pas attention. J'ai regardé dans le Coran, je n'ai rien trouvé. Ben, cette phrase-là, elle n'est pas bonne. Cette phrase-là, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'en islam, on n'a pas que le Coran. Vous comprenez? Donc déjà, il y a une erreur que beaucoup de gens n'y prêtent pas attention. J'ai regardé dans le Coran, je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas que le Coran. C'est pour dire, on retourne qu'au Coran, les hadiths, voilà. Subhanallah. On habitue les gens à cela. Je crois que les gens, ils pensent que hein, on n'a pas d'enseignement prophétique. On n'a pas de hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a le Coran et la sunna. Et on a aussi les explications, la méthodologie des sahabes et des tabi'in. C'est une religion qui est riche. Alhamdoulilah, elle est préservée. Les ulamas de toute époque ont travaillé. C'est pas comme les doctrines et les religions d'avant qui ont été polluées par la main de l'homme, changées, falsifiées. Eux non plus, ils n'ont pas. Et on a une science qui n'existe chez personne. C'est la science des narrateurs. Ilm al-rijal, ça n'existe pas. Personne ne l'a. Il n'y a que les musulmans qui l'ont. Ils sont capables de, sans coupure, de te ramener des textes depuis celui qui parle jusqu'à celui qui l'a dit. Jusqu'au compagnon, jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, personne ne l'a. Chez les chrétiens, chez les juifs ou autres, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un chrétien, il dira un tel, d'après un tel, d'après un tel, jusqu'à Jésus. Ça n'existe pas. Ils ne l'ont pas. Les juifs, ils ne l'ont pas. Subhanallah. Donc ça, c'est une science. Et chaque science, elle a ses hommes. Mais quand des ignorants prennent une place qui n'est pas la leur, tu peux attendre l'heure. C'est bon, tu peux attendre l'heure. Lorsqu'on donne, ben oui, lorsqu'on donne des fonctions à ceux qui ne le méritent pas, à ceux qui n'ont rien à y faire, tu peux attendre l'heure. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. سبحان الله. Beaucoup. Et mieux vaut que personne ne réponde que des gens à tout va se mettent à répondre. Il y a des gens, pourquoi il n'y a personne qui répond? Pourquoi personne ne va devant la caméra? Pourquoi? Les gens, les pauvres, je sais que beaucoup sont bien intentionnés, mais ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Et chacun est responsable de ses paroles et de ses actes. Et chacun sait mieux la place. Est-ce qu'il a le statut ou n'a pas le statut d'eux? Et la précipitation, souvent, il n'en découle que du mal. Et le regret. Et la tristesse. Et il en découle des mots, des fois, qui peuvent être graves. Et ils peuvent rapporter une situation qui est bien pire que celle qu'on vit. Et déjà à la base, les gens n'ont pas à perdre leur temps. Dans cette vie, il faut profiter. Il faut profiter d'un point de vue religieux et d'un point de vue mondain. C'est dur de voir des gens qui, d'un point de vue religieux, perdent leur temps et d'un point de vue mondain, ils perdent leur temps. La fi d-din ou la fi d-dunya, c'est un problème ça. Subhanallah. Donc religieusement, tu te dois d'avancer. Mais aussi dans ta vie de ce bas monde. Tu prends ta part de cette vie, de ce bas monde. Mais pas. On vit une époque où beaucoup de gens, ils sont dans, dans un relâchement et dans une perte de temps. Mais le problème, tant qu'ils sont en vie, il y a peut-être espoir qu'un jour ou l'autre, ils se réveillent et qu'ils reviennent. Mais s'ils quittent ce monde, ils le quittent avec quoi ? Subhanallah. C'est important. Donc il faut profiter convenablement. C'est ça le vrai. Quand les gens ils te disent « profite de ta jeunesse », prenez la phrase elle est vraie. Eux ils comprennent, ça veut dire « fais le haram, fais l'interdit ». Parce qu'après tu ne le feras plus. Tu n'auras plus la force ou l'âge de le faire. Mais c'est, la phrase en elle-même, elle est vraie. Mais après les gens, chacun comment il interprète cette phrase. Et profiter de sa jeunesse, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Hein, profite de ta jeunesse avant, avant ta vieillesse. Parce qu'une fois que tu seras vieux, tu ne pourras plus faire certaines œuvres. Tu n'auras plus cette force. Mais subhanallah en islam, Allah il est bon. Subhanahu wa ta'ala. Allah il fait des dons à ses serviteurs. Il faut en profiter. Tu œuvres pendant que tu es en bonne santé. Tu tombes malade. Des œuvres, tu ne peux plus les faire à cause de la maladie. Ils te sont écrits. Comme si tu les faisais. Subhanallah. C'est une bonté d'Allah Azza wa Jal. Il faut en profiter. La personne, elle est allongée dans son lit, mais ne l'a empêché de faire les œuvres que cette maladie, et il avait l'habitude de les faire, et bien cette habitude, elle ne se perd pas. C'est-à-dire les récompenses, elles sont toujours là, comptabilisées. Et la personne, elle gagne. Subhanallah. C'est ça, profiter. Profite de la jeunesse avant la vieillesse, de ta richesse avant ta pauvreté. Comme ça, lorsque tu te retrouves dans l'autre situation, alhamdoulilah, tu gagnes. Tu gagnes. C'est important. Donc, faire attention à des gens, hein, d'une manière ou d'une autre, essaye de s'attaquer à l'islam. Il y a un Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et Allah préserve sa religion. Et Allah protège sa religion. Donc, et elle sera protégée par notre biais à nous ou quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas nous, ça sera d'autres personnes. Subhanallah. Mais ça veut, ce n'est pas parce que on a une envie que ça légitime ce que font certains. Il faut arrêter. Les gens veulent tous être des défenseurs de l'islam, alors qu'au final, ils savent très bien qu'ils n'en ont pas la capacité. Ils rentrent dans des sujets du commun, de la communauté. Comment ça? Il n'y a qu'un sot, quelqu'un qui a un problème pour faire ça. Tu as une place dans la communauté, tu as un statut? Non. Tu as une responsabilité quelconque? Non. Pourquoi tu rentres dans ce qui te dépasse? Subhanallah. Occupe-toi de ton foyer, de ta personne et de ceux qui sont autour de toi. Pourquoi tu rentres dans? Je parle de cela parce que maintenant, les gens ils réfléchissent pas. Il y a des gens, ils écrivent sur Internet. Ils écrivent. Donc, au vu de tout le monde. Ils écrivent sur le président, sur le ministre, sur des gens qui ont une autorité ou un pouvoir. Parce qu'ils se disent, on est en train de défendre quelque chose. Premièrement, quel savant vous a conseillé d'agir ainsi? Subhanallah. Hein? Vous avez demandé? Ou parce que toi, tu penses que ton action, elle est minime? Non, c'est pas. Avant de faire, t'es-tu renseigné? Deuxièmement, il ramène dans ses propos des sujets, il ne réfléchit même pas aux conséquences. Comme conséquences. Qu'est-ce que ça? Ça peut ramener un mal à la communauté. Mais il n'y pense pas. Après, il dira quoi? Je ne voulais pas, et ainsi de suite. Les excuses qu'on connaît. Subhanallah. Donc, il s'impose à lui-même ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne lui a pas imposé. Et de dire, mais il n'y a personne qui répond, c'est pas parce qu'il n'y a personne qui répond que ça veut dire n'importe qui peut répondre. Subhanallah. Donc, il faut faire attention. Puis, cette personne, il lance ce message, ce mot dans les réseaux sociaux, au vu de tout le monde. Ce n'est pas une discussion privée. Non. Au vu de n'importe qui, il y a accès. Cette même personne, on lui donne le micro, on lui dit, vas-y, dis ce que tu as écrit. Il y a forte chance qu'il dira, non, j'ose pas. Non, c'est pas à moi de le faire. Donc si tu n'es pas capable de parler devant des gens, devant un public, et répéter ce que tu as écrit, pourquoi tu le fais? Parce que c'est plus facile d'être dans son lit, avec son petit clavier, hein, et tu ne sais pas qu'en vérité, tu sais ce que tu es en train de faire. C'est un message qui sera lu par n'importe quelle personne, puisqu'il est envoyé d'une manière générale. Il faut faire attention. Qu'Allah nous facilite à tous. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah l'autre jour dit, Allah, dans le sens du verset, Allah élèvera ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui sont dotés de savoir de plusieurs degrés. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Et Allah l'autre jour dit, dans le sens du verset, dit, sont-ils égaux, sont-ils semblables, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. وعليك بالعمل به والدعوة إليه. Et tu te dois, après avoir acquis ce savoir prophétique, de le pratiquer, d'appliquer ce que tu sais et d'y appeler, d'inviter, de le retransmettre. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Allah dit dans le sens du verset, et qui est meilleur, qui a la meilleure parole que celui qui invite, qui appelle à Allah et qui agit en bien, qui pratique les bonnes œuvres, et il dit je suis du nombre des soumis. وحرص أن تكون من النوع الأول ممن تقبل هذا النور الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيضيء الله به قلبك ويحييه فالحياة الصحيحة الطيبة لا تكون إلا به. Et efforce-toi d'être parmi les gens de la première catégorie, ceux qui ont accepté cette lumière avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala illumine ton cœur et lui donne la vie. La véritable vie authentique et bonne ne peut être si ce n'est avec cela. وَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرْ أَنْ تَكُونَ مِنَ النَّوْعِ الثَّالِثِ الذي لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا. Et fais attention de ne pas être du nombre des gens de la troisième catégorie, celui qui n'a pas accepté la guidée d'Allah et qui n'y prête pas attention. ما يستفاد من الحديث. Les leçons à retenir du hadith. عظمة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم ألا وهو القرآن والسنة وآثارهما في حياة الناس. La grandeur du message avec lequel est venu le prophète صلى الله عليه وسلم comme guidé et savoir, et c'est le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna, ils vont de pair. Jamais on les sépare. Ensemble, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yalida alayya al-hawd. Donc le prophète sallam il dit, j'ai laissé entre vous deux choses. Jamais vous ne serez égarés tant que vous y attachez, tant que vous y cramponnez. Le livre d'Allah, le Coran, et ma tradition, ma sunna, la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils ne seront jamais séparés jusqu'à que les deux soient présentés à moi devant le Haud, qui est le bassin du prophète, alayhi salatu wassalam, dans l'au-delà. Donc, dans ce hadith, le prophète nous enseigne que le Coran et la Sunna restent ensemble. On ne les sépare jamais. Et ils ne seront jamais séparés. jusqu'à que le Coran et la Sunna soient présentés au prophète alayhi salatu wassalam devant Al-Hawd, qui est le bassin du prophète alayhi salatu wassalam. Et les bonnes traces qui laissent le Coran et la Sunna dans la vie des gens.
تفاوت الناس من حيث الاستعداد لقبول ما جاء به الرسول وعدمه فالناس معادن.
Donc, il y a différentes catégories, la différence qu'il y a chez les gens, hein, de sorte qu'il y a ceux qui acceptent et ceux qui refusent et qui n'acceptent pas ce avec quoi est venu le prophète, alayhi salatu wassalam. Et les gens sont comme des minerais. Hein, les minerais, il y en a différentes sortes.
Thalithan,
troisièmement, fadlu al-ilm wa al-ta'lim wa nashru al-khayr fi an-nas. Le mérite du savoir, de l'enseignement, de l'apprentissage et de sa propagation, la propagation du bien au sein des gens.
خطورة الإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة من جهة ودلالة هذا الإعراض على رداءة معاد هؤلاء المعرضين وحقارتهم عند الله.
Le danger de se détourner du message d'Allah صلى الله عليه وسلم, de ce avec quoi était envoyé le prophète عليه الصلاة والسلام comme livre et sunna, avec le Coran et la sunna, et ce rejet ou ce refus de l'acceptation du Coran et de la sunna, du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci prouve, hein, que ces personnes sont de mauvais minerais, de mauvaises terres, et qu'ils n'ont pas une place bonne ou grande auprès d'Allah Azza wa Jal, mais plutôt une place qui est méprisable auprès d'Allah Azza wa Jal.
Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.